Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, j'ai été malade ces derniers jours et à peine remis aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne vous ai pas donné le sermon en temps utile, et c'est un sermon un petit peu improvisé. Mais ça fait rien, je ne voulais pas laisser passer la grande fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge sans parler de la Sainte Vierge et surtout travailler à la faire aimer. Saint François d'Assise, lorsqu'il prêcha à Bologne le jour de l'Assomption, parla des anges, des hommes et des démons. Nous ne savons pas le contenu de son sermon, nous en connaissons seulement les fruits, à savoir que des familles de la ville qui étaient cruellement opposées les unes aux autres se réconcilièrent, qu'il y eut énormément de pécheurs à revenir à la grâce de Dieu, et que, parmi les assistants, deux se firent frères franciscains. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans le sermon, mais l'idée est très bonne, de voir la très sainte Vierge qui domine les anges, les hommes et les démons. Commençons par le plus simple, si vous le voulez bien, les démons. Ils ont une peur bleue de la sainte Vierge. C'est même plus que de la peur, c'est de la panique. Il y a de la haine, bien entendu, comme envers toutes les œuvres de Dieu. Mais comme ils savent que la Sainte Vierge est plus forte qu'une armée rangée en bataille, mais ils savent que la Sainte Vierge a vaincu toutes les hérésies, alors que l'hérésie est leur moyen privilégié à eux de perdre les hommes, comme ils savent que la Sainte Vierge met la paix parce qu'elle est une mère, alors que la haine est, avec l'hérésie, leur premier moyen de perdre les hommes, et même en y réfléchissant bien, cela vient avant l'hérésie. Or, la mère ramène les enfants de la famille dans son giron, et donc elle leur arrache les pécheurs qui sont pris par la haine. Et le bon Dieu, pour donner une victoire plus grande à la très sainte Vierge, à la fin des temps, c'est-à-dire pour que l'histoire de l'Église ne se résume pas à de petites victoires de la Sainte Vierge, mais à une grande victoire extraordinaire, non seulement sur les pécheurs un à un, mais sur les enfers tout entiers, parce qu'il l'avait promis, le jour du péché originel. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et tu la mordras au talon, mais elle t'écrasera la tête. Pour que cette victoire de la Sainte Vierge soit plus éclatante, le bon Dieu permet que l'arrogance, la furie du démon soit presque sans limite. Et cela nous surprend. Nous sommes dans un monde de haine, mes bien chers frères. Et ne répondons pas à la haine par la haine. Les martyrs n'avaient pas la haine de leur bourreau. Ils n'avaient pas la haine des préfets qui les condamnaient à mort. Ils n'avaient pas la haine des bourreaux. Lorsque je ne sais plus quel roi de Pologne se vit près de tout perdre, il constata que la puissance de ses ennemis était le bras de Dieu pour le punir de ne pas avoir dirigé son peuple dans la vertu chrétienne. Attila était appelé le fléau de Dieu, pas le fléau du diable, le fléau de Dieu. Et nous, notre manière de vaincre le démon, c'est la même que celle de la Sainte Vierge, c'est d'être unis à Jésus-Christ, à la croix de Jésus-Christ, ce qui nous mène au triomphe de la vie éternelle, et lorsque nous serons au haut du ciel, notre triomphe sera complet, sur le démon qui grille en enfer. Une dernière recommandation à propos des démons, après la recommandation générale, une recommandation particulière. Les démons ne mettent pas la haine simplement, je veux dire uniquement dans le monde entier, ils s'attaquent à chacun d'entre nous, et chacun d'entre nous doit se réfugier près de la Sainte Vierge. Ils ont une peur panique de la Sainte Vierge. Ils fuient dès qu'ils la voient, ils fuient dès que quelqu'un prend son chapelet, ils fuient dès que quelqu'un dit simplement « Je vous salue Marie ». Ayez toujours votre chapelet dans votre poche et utilisez-le. Ayez le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel et chantez à la Sainte Vierge les chants qu'elle aime tant, le « Je vous salue Marie », les litanies, le « Souvenez-vous » et, bien sûr, le « Stabat Mater ». Les anges, les hommes et les démons. Nous avons vu les démons, voyons ce qu'il en est des hommes. La Sainte Vierge est leur mère, ils sont fils de Marie. Fils, voici ta mère, femme, voici ton fils, dit notre Seigneur sur la croix. Il faut prendre ces paroles vraiment dans leur sens le plus plein. La plus grande fierté d'une mère, c'est de voir son fils produire des fruits avec ce qu'elle lui a donné, d'une mère, d'un père aussi d'ailleurs. La plus grande fierté de Marie envers chacun d'entre nous, envers tous les hommes en général et chacun d'entre nous en particulier, c'est de voir que nous portons du fruit avec ce qu'elle nous a donné. Or, que nous donne-t-elle dans les apparitions récentes, et notamment à Fatima? Elle nourrit en nous un amour de Dieu qui va jusqu'à la prière et la pénitence pour la conversion des pauvres pécheurs. Remarquez ce qu'elle a dit, les pauvres pécheurs. Elle ne dit pas les pécheurs tout court, mais les pauvres pécheurs. C'est tout. Laissez au ciel le soin de vous traduire l'évangile en termes simples. Laissez au ciel le soin de vous traduire toute la théologie mariale, c'est-à-dire toutes les études faites par les grands saints sur la Sainte Vierge, en termes simples. On n'en dira jamais assez à propos de la Sainte Vierge, a dit un grand saint, de Maria Nunquam Satis. La Sainte Vierge traduit cette belle, longue, abondante littérature en son honneur, elle la traduit en des termes simples, efficaces. Elle nous dit non pas ce qu'elle voulait à l'époque des croisades, non pas ce qu'elle voulait à l'époque des débuts de l'Église, et j'allais dire même de l'Ancien Testament, parce qu'elle était près de Dieu pour dominer le monde déjà. Elle nous dit ce qu'elle attend de nous aujourd'hui. Et elle attend de nous aujourd'hui le rosaire, la prière et la pénitence pour les pauvres pécheurs. Elle attend de nous aujourd'hui les premiers samedis du mois, toujours pour la conversion des pauvres pécheurs. Et elle attend de nous que nous travaillions dans la toute petite mesure de nos faibles forces à la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Marie n'est pas seulement notre mère, elle est notre reine. Nous avons pour mère la reine des cieux, la reine des anges. Ce n'est pas étonnant, puisque nous sommes d'une race royale, dit saint Pierre, d'un peuple saint. Ce n'est pas étonnant, puisque la Sainte Vierge est la mère du roi du ciel et de la terre. Elle est la mère du roi qui a conquis le monde par sa prestance, parce qu'il est le plus grand, qui a conquis le monde par sa bonté, parce qu'il donne la grâce, qui a conquis le monde comme un combattant, un guerrier victorieux, parce qu'il l'a sauvé sur la croix au prix de son sang. Et les anges, que disent-ils? Ils disent « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et ce qui étonne le plus saint Thomas d'Aquin lorsqu'il parle du « Je vous salue Marie », c'est « Je vous salue Marie ». Il dit « Les anges, normalement, ne saluent pas les hommes ». C'est l'inverse. Or, cet ange salue la Sainte Vierge. Pourquoi ? Dans l'Ancien Testament, les anges ne saluaient pas les hommes, c'était l'inverse, les hommes qui saluaient les anges. Pourquoi ? Parce que l'homme est supérieur à l'ange, est supérieur à l'homme en dignité, du fait de sa nature purement spirituelle. Deuxièmement, l'ange surpasse l'homme par sa familiarité avec Dieu. Troisièmement, l'ange est élevé au-dessus de l'homme par la plénitude de la splendeur de sa grâce divine. Eh bien, mes bien chers frères, si l'ange salue la très sainte Vierge, et surtout la salue avec cette plénitude, « Je vous salue Marie, pleine de grâce », c'est qu'il reconnaît en elle une supériorité malgré la faiblesse du fait qu'elle soit une femme et non pas un ange. Marie, femme, membre du genre humain composé d'âme et du corps, est plus spirituelle que tous les anges et que le plus grand de tous les anges, même bien qu'il n'ait pas de corps, les anges. Deuxièmement, la familiarité avec Dieu. Déjà, depuis son Immaculée Conception, la Très Sainte Vierge était plus familière avec Dieu au sens de membre de la famille. Elle était plus familière avec Dieu que le plus élevé de tous les anges. Après l'incarnation, elle était plus familière avec Dieu à cause de la proximité avec son Fils. Et depuis son assomption au ciel, elle est dans la grande familiarité de Dieu, au-dessus de tous les anges. Elle siège à la droite de son Fils, qui siège à la droite de Dieu le Père. Enfin, la Sainte Vierge est pleine de grâce. Les anges ont une plénitude qui correspond à leur nature. Ils ne peuvent pas avoir plus grande grâce que celle qu'ils ont. Mais leur grâce n'est pas faite pour déborder sur les hommes. Les anges ne sanctifient pas les hommes, si ce n'est très extérieurement. Tandis que la très sainte Vierge partage avec son divin Fils de sanctifier les hommes par l'abondance de la grâce qui est en elle et qui déborde. Ce débordement est naturel chez notre Seigneur Jésus-Christ. Il est reçu chez la très sainte Vierge. Il est évident que la très sainte Vierge n'est pas par nature apte à sanctifier tous les hommes, alors que le Christ l'est par nature, bien entendu. C'est une plénitude reçue, mais c'est une plénitude qui s'étend à tous les hommes, à toutes les situations, à tous les drames. C'est une plénitude qui sort les plus grands pécheurs de la boue du péché. C'est une plénitude qui est apte à faire des plus grands saints, des saints encore plus merveilleux que ce qu'ils étaient auparavant. C'est une plénitude qui déborde non pas sur les hommes chacun en particulier, mais sur l'Église tout entière. La très sainte Vierge fait l'Église, elle fait la chrétienté, elle réalise le triomphe de son Fils sur la terre dans la Sainte Église. Elle fait cette amitié entre tous les chrétiens, elle fait cette cohésion dans la foi, elle fait cette cohésion dans la charité qui se manifeste par les œuvres de miséricorde. C'est elle qui envoie les missionnaires au bout du monde. C'est elle qui domine notre pauvre monde païen. Et pour que sa victoire soit plus grande encore, elle le domine pour l'instant de façon invisible, ou disons peu visible, mais lorsque le bon Dieu le voudra, on découvrira à quel point la Sainte Vierge, même encore aujourd'hui, maintient tant et tant d'âmes dans son amour, guide tant et tant d'âmes vers la vérité de Dieu, fait échapper tant et tant d'âmes au piège du démon, au piège du modernisme. Et si ces âmes n'ont pas la plénitude de la foi, n'ont pas la plénitude du trésor de l'Église, la très sainte Vierge n'en est encore que plus reine, puisqu'elle envoie ses plus fidèles serviteurs. Elle nous envoie chacun de nous, mes bien chers frères, qui avons eu la grâce d'être bénis par elle. Elle nous envoie compléter avec elle son œuvre de salut. Pour cela, elle règne particulièrement sur la France, non pas qu'elle ne règne pas sur d'autres pays, puisque des pays comme la Pologne, comme le Portugal, se sont honorés d'être le royaume de Marie. Mais il est un fait que les prêtres polonais que nous avons rencontrés ont appris le français, et l'un d'eux m'a dit « parce que c'est en France qu'on trouve les doctrines contre-révolutionnaires ». Parce que c'est en France que vous avez eu Mgr Lefebvre. Alors, malgré toutes ses faiblesses, Louis XIII, malgré ses grandes, grandes faiblesses de roi, Louis XIII a eu le mérite de consacrer la France à la Très Sainte Vierge. Elle est reine de France d'une façon particulière. Nous sommes donc, d'une façon particulière, nous, Français, sujets de la Sainte Vierge, nous sommes d'une façon particulière ses serviteurs, nous sommes d'une façon particulière à sa disposition pour l'œuvre de relèvement qu'elle a entreprise avec son Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.